distant, paisible, qui me rappelle un voyage effectué pour une série de conférences il y a quelques années en Amérique du Sud, en Amazonie, où les arbres sont un peu plus hauts simplement et où il fait un peu plus chaud. Mais j'ai l'impression de retrouver quelques sensations déjà éprouvées ailleurs. J'ai eu l'occasion de prendre quelques cours de québécois en venant en voiture depuis le sud. Je pense que certains parmi vous qui m'ont conduit jusqu'ici se sentent très visés ce soir, mais je leur ai dit que peut-être je parlerai d'eux s'ils voulaient à tout prix que je parle québécois. J'ai laissé, et j'aimerais quand même le dire parce que cela appartient à la vie de prière, on connaît souvent le prédicateur, le messager, on connaît trop peu l'épouse et éventuellement les enfants qu'il laisse derrière lui. Alors j'ai laissé derrière moi une épouse, Tina, qui ne pense pas à moi en ce moment, tout simplement parce que il est 2 heures du matin, alors j'ai aussi envie de dormir, il est 2 heures du matin en France, mais elle pense souvent à moi ces jours-ci, et nous avons 4 enfants, qui ont pour l'aîné 18 ans, la seconde 14 ans bientôt, la troisième 13 ans, et enfin un garçon qui a eu la bonne idée de clore la série et qui lui va bientôt avoir 10 ans. Et croyez-moi, ils pensent beaucoup à leur papa et ils auraient bien voulu être dans la valise de papa, mais le poids était limité à 20 kilos. Nous allons, si vous le voulez bien, ce soir lire ensemble le début de l'histoire de Daniel. Nous lisons donc dans Daniel au chapitre 1er les 7 premiers versets. Daniel, chapitre 1er, les 7 premiers versets. Daniel, chapitre 1er, je vous laisse le temps d'ouvrir vos Bibles pour suivre. Et je lis donc à partir du verset 1er. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Michel et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar, à Hanania celui de Shadrach, à Michel celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Je ne vais pas, ce soir, de la part de Dieu, vous inviter à faire des choix. Nous avons 5 étapes durant cette fin de semaine, 5 temps forts de réflexion autour des Écritures, et nous allons essentiellement, ce soir, introduire notre sujet, parce qu'une introduction nous permettra ensuite de mieux saisir, avec plus d'intensité, avec plus de relief, le sens des choix devant lesquels nous serons placés et demain et lundi matin. Alors nous allons faire un peu d'histoire, nous allons faire un peu d'archéologie. C'est important, c'est nécessaire, nous étudions la Bible. Quelqu'un dit à juste titre qu'il y a beaucoup de croyants qui lisent la Bible, mais trop peu qui l'étudient. Et nous voulons étudier la parole de Dieu. Et l'étudier tout en veillant à mettre le message de cette étude à portée de chacun d'entre eux, de chacun d'entre nous. Et nous allons faire un peu d'histoire pour bien situer l'épreuve de ces quatre jeunes gens dont il est question dans les sept premiers versets, les quatre mousquetaires de Dieu. Nous sommes à la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ. Une vieille histoire. 606 ou 605 avant Jésus-Christ. C'est une période cruciale de l'histoire qui est en train de se dérouler dans le monde ancien. Tout d'abord, c'est ce que nous indique le début du texte, un nouvel empire est en train de monter comme le soleil monte à son zénith dans le ciel. L'empire babylonien ou chaldéen. Et Nebuchadnezzar vient de remporter une grande victoire. Dans une bataille qui restera célèbre contre la puissance égyptienne. L'Égypte est à son déclin. Son père, Nebuchadnezzar, qui va mourir sous peu, qui est malade, son père avait détruit la capitale d'un immense empire dont il est question dans l'Ancien Testament, Ninive. Peu de temps auparavant, l'empire assyrien, encore un empire qui disparaît. Et avec Nebuchadnezzar commence un des règnes les plus longs et les plus brillants de toute l'histoire. Ce potentat, ce despote, ce dictateur terriblement puissant, va régner pendant plus de 43 ans, très long règne. Et il va marquer le monde de l'époque de son empreinte. Au point d'ailleurs que dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 26, Nebuchadnezzar est appelé le roi des rois. Le roi des rois. Et au moment où commence notre histoire, Nebuchadnezzar assiège Jérusalem. Trois déportations vont se succéder sur une vingtaine d'années. Période difficile, troublante, qui est la signature de Dieu sur une longue décadence, sur un long déclin. Trois déportations vont se succéder donc jusqu'en 587-586 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu s'est arrangé pour placer au cœur de chacun de ces grands événements, de ces trois déportations, l'un ou l'autre de ses serviteurs. Ici, il s'agit d'une toute petite déportation, quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale, de famille noble, qui sont donc destinés à servir comme hauts fonctionnaires du grand empire. Et Dieu glisse dans le lot de ces jeunes gens un futur homme de Dieu, qui sera homme d'État, de grande envergure, mais qui a déjà de l'étoffe, comme nous aurons l'occasion de le voir demain. Et nous verrons pourquoi ce jeune homme a de l'étoffe. Pourquoi il a une colonne vertébrale. Et pourquoi il va être rendu capable de tenir le coup et de marquer lui aussi de l'empreinte de Dieu la cour royale de Babylone. Il y aura une seconde déportation un peu plus importante près d'une dizaine d'années plus tard, en 597. Une rébellion va être écrasée à Jérusalem. Jérusalem va être assiégée. 10 000 personnes vont être déportées. Et avec ces personnes, le roi Josiakim, avec un N, le successeur de Josiakim, c'est fait pour tromper ceux qui lisent trop peu leur Bible, Josiakim, et sa famille, des ministres, des guerriers, des artisans, et Dieu va s'arranger, une fois de plus, pour glisser dans le lot des déportés un homme de Dieu qui va avoir un service courageux, Ézéchiel, âgé alors de 25 ans. Et puis enfin, on arrive à cette grande déportation terrible, 586, Jérusalem est assiégée pendant une année et demie, puis brûlée, les grands de Juda sont massacrés, la muraille est démolie, le temple est pillé, et c'est la déportation d'un nouveau groupe de captifs. Et dans ce groupe de captifs, qui est sur le point de s'ébranler pour rejoindre Babylone, figure un troisième homme de Dieu. Il est enchaîné. Il a derrière lui une quarantaine d'années de service, fidèle. Un homme de Dieu qui a souvent pleuré, qui a lutté dans sa fidélité au service de Dieu, un passionné de Dieu. Il s'appelle Jérémie. Et on ne sait pas très bien ce qu'il devait se passer dans son cœur, alors qu'il était là enchaîné et sur le point de partir avec tous ses déportés. Et puis au dernier moment, parce que Dieu est fidèle à ses promesses, et Dieu avait fait des promesses toutes particulières à Jérémie, les hauts dignitaires de Babylone sont venus le délivrer. Et il a pu rester dans le pays. Voilà une courte introduction historique, mais qui nous montre déjà, tout d'abord, que le début de l'histoire de Daniel se situe à un carrefour stratégique de l'histoire des hommes. Nous leur dirons, Dieu est le Dieu souverain, et Dieu sait se choisir des hommes et des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, pour avoir un impact de sa part sur la société, dans les périodes notamment particulièrement importantes de l'histoire, comme celle que nous vivons aujourd'hui en particulier. Daniel est donc, nous l'avons dit, un tout jeune homme. Il a en tout cas moins de 18 ans. Alors on pourrait s'amuser ce soir et faire lever des mains pour voir quels sont ceux et celles parmi vous qui ont moins de 18 ans. Il y en a. Il y en a parmi vous qui se sentiront donc d'ici lundi concernés d'une manière toute particulière. Mais rassurons-nous. Dieu ne nous a pas donné le début du livre de Daniel simplement pour les moins de 18 ans. La Bible n'est pas interdite aux moins de 18 ans, comme les films. Elle est pour les enfants, et je bénis Dieu de ce qu'il m'est trouvé dans mon enfant, et de ce que j'ai pu très tôt apprendre à le servir. Quel privilège que de posséder ici, au Québec, un camp comme celui-ci. Nous verrons dans la jeune vie de Daniel l'importance de son enfance. La marque, pourrions-nous dire, des camps, entre guillemets, qu'il a pu faire dans son enfance, en Juda et à Jérusalem. Et Daniel, à cet âge-là, devient l'innocente victime des bouleversements internationaux de l'époque. J'imagine, ce soir, pendant que nous sommes réunis ici, ces enfants, ces jeunes gens et ces jeunes filles qui sont les innocentes victimes des bouleversements internationaux et qui sont traités comme otages dans la Babylone moderne, qu'est l'Irak. Puisqu'il faut savoir que l'Irak correspond précisément à cette Babylone, partiellement bien sûr, dont il est question dans le livre de Daniel. Que doivent penser ces jeunes gens et ces jeunes filles? Que doivent penser ces enfants? Pour certains, dans une folle angoisse concernant le développement des événements dans les jours et dans les semaines à venir. Vous voyez combien la parole de Dieu est d'actualité. Combien Dieu a à nous parler aujourd'hui en particulier. Ce jeune homme et ses camarades vont être arrachés à leur patrie, à leur culture, à leur famille, pour se retrouver à quelques 800 km de là, vol d'oiseau, après un long voyage pénible d'environ 1200 km. Et je les imagine arrivant couverts de poussière, en sueur, fatigués, lassés, inquiets, le cœur battant d'une folle angoisse, et découvrant, eux qui arrivent de leur petite capitale provinciale de Jérusalem, découvrant la ville la plus grande du monde d'alors, et qui peut-être et certainement a été la ville la plus importante du monde, Babylone. Babylone la Grande, fondée probablement par Nimrod, l'architecte possible de la tour de Babel, une capitale magnifiquement située, au carrefour de grands axes permettant la rencontre de caravanes venant des quatre points cardinaux. Babylone est très rapidement devenue une cité marchande de première importance. Et Nebuchadnezzar va en faire une cité prestigieuse, la capitale d'un immense empire allant de l'Arménie à l'Arabie et de la Méditerranée au Golfe Persique. Et ce qui est intéressant, nous n'avons pas le temps, nous ne prendrons pas le temps, si nous étions ensemble pour une semaine d'études, nous aurions pris du temps pour pénétrer dans le détail de cette gigantesque cité. Mais il faut savoir que les historiens profanes et sacrés ont beaucoup écrit à son sujet. Beaucoup écrit. Des grands historiens comme Hérodote, Xénophon, Pline et d'autres ont beaucoup parlé d'elle. Et on estime que pendant les 150 dernières années, on a pu recueillir, tenez-vous bien, quelques 250 000 tablettes d'argile, une vaste bibliothèque, et qui permettent dans toute cette immense région de mieux connaître l'histoire, notamment de Babylone. Des milliers de tablettes ont été découvertes dans la ville de Babylone. Et puis nous avons les textes de l'Ancien Testament. Et il faut savoir que l'Ancien Testament est riche, suggestif, concernant Babylone. Ésaïe chapitre 13, chapitre 14, chapitre 21, Jérémie chapitre 50 et 51, plus en partie le chapitre 47, vous avez des chapitres entiers et très longs qui nous donne des descriptions particulièrement saisissantes de cette importante cité. Je ne vais pas vous la décrire par le détail, mais j'aimerais simplement vous signaler ce soir trois caractéristiques importantes de Babylone. Ce qui a dû beaucoup frapper Daniel très rapidement. Tout d'abord, Babylone est une cité orgueilleuse. Et l'orgueil se respire à Babylone, il se voit. L'orgueil frappe le regard. L'orgueil est matérialisé dans les réalisations extraordinaires de cette cité. Il y avait, par exemple, les jardins suspendus de Babylone, une des sept merveilles du monde antique. Un petit plaisir que Nebuchadnezzar a voulu offrir gracieusement à l'une de ses épouses favorites qui s'ennuyait de sa région. Alors il l'a fait construire de magnifiques jardins suspendus avec tout un système hydraulique qui permettait de faire monter l'eau, etc. C'était quelque chose d'extraordinaire. La ville elle-même était, d'après les archéologues et les découvertes réalisées, un carré parfait, entouré de hautes murailles. Oh, les commentateurs, les historiens ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Et on est quelque peu ennuyé lorsqu'on constate qu'il y a des contradictions dans leurs rapports, surtout en ce qui concerne les dimensions de cette cité. Certains évoquent des murs de 24 à 26 mètres d'épaisseur. Je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que cela représente. Deux chariots attelés de 4 chevaux pouvaient y passer de front. Certains des historiens parlent de ces murs comme ayant 12 mètres de fondation en sous-sol, de manière à éviter tout travail de sape pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cité. On a comparé la surface de cette ville de Babylone à la surface de la ville de Paris. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui seraient allés faire un petit tour dans cette grande cité, je vous signale que l'agglomération parisienne fait actuellement entre 10 et 12 millions d'habitants, et la ville de Paris, à l'intérieur de ses murs, en fait un peu plus de 2, mais elle diminue, comme beaucoup des villes du monde, l'intérieur diminue au profit de l'extérieur. Une grande, très grande cité avec 100 portes d'airain massifs qui s'ouvraient sur la campagne. Et des rues à faire pâlir d'envie tous les urbanistes de notre temps, qui s'arrachent les cheveux, peut-être moins au Québec, sauf dans les grandes villes. Je suppose qu'à Montréal, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des bouchons, mais quand on pense aux grandes cités de ce monde. À Babylone, vous aviez des rues de 8 km de longueur, de 52 mètres de largeur. Et la ville était quadrillée de ces rues. Cela formait de magnifiques îlots d'habitation et de verdure avec des maisons de 3 ou 4 étages. Et puis au cœur de la cité, ce que presque tout le monde connaît, cette ziggourate, cette énorme pyramide à gradins, peut-être de 100 mètres de hauteur, pour laquelle il avait fallu quelque 85 millions de briques, qui étaient toutes marquées du sceau royal. Oh, il y avait des richesses dans cette ville de Babylone. On a retrouvé une image en or de la grande divinité de Babylone, Belle, plus une table d'or. Le poids total simplement de ces deux éléments était de 22 tonnes d'or, simplement la table et la statue. Et on a trouvé tant et tant d'autres choses. Les prophètes de l'Ancien Testament ont appelé Babylone la cité d'or, la reine des royaumes, la fière parure des Chaldéens, une coupe d'or dans la main de l'Éternel. Vous lirez toutes ces expressions essentiellement dans Jérémie 51, 52, 50 et 51. Quand Nebuchadnezzar contemple cette cité depuis le palais royal, il s'écrie « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma gloire ?» Daniel chapitre 4, verset 27. Jérémie 50 « Voici j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur l'Éternel des armées. » Au chapitre 50, verset 29 encore, « Elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel. » Ésaïe 47, verset 8, « Voluptueuse qui t'assise avec assurance et qui dis en ton cœur, moi et rien que moi. » Et vous connaissez certainement l'ivresse orgueilleuse de ce roi de Babylone, on ne sait pas lequel, mais qui cache un autre personnage, la puissance des ténèbres en personne. Dans Ésaïe au chapitre 14, lorsqu'il est dit au verset 13, « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » L'orgueil. L'orgueil de Babylone. Quelque chose qui a dû frapper le jeune Daniel et ses compagnons de plein fouet. Et puis, seconde caractéristique de cette cité gigantesque, elle était la capitale de l'occultisme mondial. Vous aimez les mathématiques ? Je ne les aime pas du tout. Mais pas du tout. Et cela m'a valu pendant mes études de faire bien des cauchemars. Et c'est une des raisons pour lesquelles Babylone ne m'est pas très sympathique, parce que nous devons aux Babyloniens les fondements de nos mathématiques. Aïe, aïe, aïe. Et aussi sans doute de notre astronomie. Mais astronomie, à cette époque, était très liée à astrologie. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, mais il semble qu'à nouveau les choses évoluent mal dans ce domaine. Et les tablettes découvertes par milliers révèlent la place importante de l'astrologie, la sorcellerie, la magie, la divination. Il est question dans le texte des Chaldéens. Il faudrait dire beaucoup de choses de ces Chaldéens, parce que ces Chaldéens étaient en particulier des docteurs en pratiques magiques, des experts dans ce domaine. Et ils étaient les auteurs d'ouvrages sur les présages, les prières, les hymnes, les légendes, les formules magiques. Ils écrivaient des ouvrages très très épais dans lesquels ils recensaient aussi les rêves, ce qui permet aussi de comprendre certains des passages des chapitres 2 et suivants. Et vous avez remarqué d'ailleurs au chapitre 2, au verset 2, cet entourage de Nebuchadnezzar, ces magiciens, ces astrologues, ces enchanteurs ou ces sorciers, et ces Chaldéens. Faut-il le dire et le redire, mais je pense que vous recevez un solide enseignement dans ce domaine. Dieu, bien sûr, clairement, interdit sévèrement de telles pratiques, puisqu'elles mettent directement les hommes en contact avec les démons. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Que ceci soit un rappel pour chacun d'entre nous. Babylone était donc une ville diabolique, un repère de démons tourmentant les hommes et les dressant contre Dieu. C'était là sa seconde caractéristique. Elle en avait une troisième. Et vous savez, ces choses vont ensemble. Cela fait partie de la famille. C'était une cité violente et corrompue. Il faut savoir qu'on a recensé 3300 noms divins dans ce qu'on appelle le polythéisme, cette multitude de divinités qui fleurissait dans la société babylonienne. C'était une cité idolâtre. On a recensé 53 temples à Babylone, 180 autels dédiés à l'Astarté babylonienne qui était une déesse de la fécondité, donc cela signifiait que le culte qui lui était offert avait un caractère dégradant, immoral, dans une sexualité épouvantable. Et bien sûr, tout cela se répandait dans toute la ville de Babylone. C'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles, dira le prophète Jérémie, chapitre 50, verset 38. Dans ce même chapitre 50, Jérémie dira que Babylone est le marteau de toute la terre, la montagne de destruction. Chapitre 51, verset 34, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a disloqué. Il a fait de moi un vase vide. Tel le dragon, il m'a englouti. Jérémie dira au chapitre 50, verset 42, ils sont cruels, sans miséricorde. Et dans ce petit joyau qu'est le livre du prophète Habakkuk, nous avons cette approche des armées de Nebuchadnezzar, qui sont décrites par l'Éternel, qui dit ceci, Je fais surgir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux. Il est terrible et redoutable. Et l'Éternel d'ajouter sa force à lui, voilà son Dieu. Le prophète Ésaïe, lui, évoquera la massue des méchants. Babylone comme la massue des méchants, l'oppresseur, le tyran. Voilà une courte description. Nous aurions pu passer beaucoup de temps. Mais c'est important cette description. Parce que c'est le nouveau cadre de vie de Daniel et de ses compagnons. Et le système babylonien va tout faire pour modeler Daniel et ses compagnons à sa guise. Les babyloniser. Véritable rouleau compresseur qui va essayer de les dépersonnaliser. On va utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui le matraquage idéologique, religieux, moral, politique, philosophique. Et pour cela, on va commencer par changer leur nom. Vous vous imaginez que, à partir de demain matin, quelqu'un vous oblige à porter le nom Adolf Hitler. Vous savez, notre nom, on y tient. C'est toute une histoire. Ce sont des racines. C'est tout un passé. C'est tout un patrimoine. Oh, il y a des noms qui sont difficiles à porter. C'est vrai. Mais pour Daniel et ses compagnons, leur nom, c'était tout un programme. Parce que ce nom leur avait été donné dans les circonstances particulières à leur naissance, en relation avec le Dieu d'Israël. Et voilà que maintenant, on voulait changer leur identité et les placer sous une autre autorité, celle de toutes ces puissances démoniaques en fait, en leur donnant les noms des divinités de l'époque. Ils vont être jalousés, ils vont être calomniés, trahis, menacés de mort. Et ils vont sortir vainqueurs de ces épreuves. Ils vont même créer un impact tout à fait particulier sur leur entourage. Ils vont être livrés aux caprices d'un dictateur cruel qui fait trembler le monde. Et auprès duquel Saddam Hussein n'est qu'un tout petit enfant de cœur en robe blanche. Parce que c'était ça, Nebuchadnezzar. Et puis, ils vont être obligés d'étudier les matières enseignées à l'université de Babylone. Et ça, c'est difficile à avaler. Parce que, bien sûr, il y a les sciences, les mathématiques, la grammaire babylonienne, mais il y a aussi, en matière principale, l'archéologie, l'astrologie, les sciences occultes. Vous croyez que c'était facile pour Daniel et ses compagnons de devoir plancher sur son banc d'école de hauts fonctionnaires sur des textes qui étaient directement en rapport avec l'occultisme? Mais c'est le problème qui se pose à nous aujourd'hui. Pendant nos études, notre fille aînée vient de passer son bac, et en France, la philosophie occupe une place redoutable dans la fin de l'enseignement secondaire qui précède le bac. Et nos enfants, en France en tout cas, sont obligés, pour pouvoir aller à l'université, d'avaler des livres et des livres de philosophie nihiliste, anti-Dieu. Et chaque année en France, des centaines de jeunes étudiants se suicident au contact de certaines de ses philosophies. Parce qu'il ne supporte pas. Et notre fille aînée a connu bien des problèmes et des conflits et des combats intérieurs au contact de cet apprentissage. Vous voyez que le début du livre de Daniel colle avec notre temps. Bien entendu, Daniel n'a pas pratiqué ce qu'il se devait d'apprendre. Mais il a dû quand même ingurgiter tout ce savoir, tout en restant fidèle à son Dieu. Parce que c'est vrai, Babylone a été détruite. Babylone est devenue un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de stupéfaction et de raillerie. Dieu a jugé son orgueil. Mais vous le savez, l'esprit de Babylone s'est perpétué au fil des siècles. Il est venu jusqu'à nous. Et il est en train de souffler avec une puissance certainement jamais atteinte dans l'histoire des hommes. Et nous savons que nous sommes entrés dans cette période qui correspond tout à fait à la fin du Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 17 et 18. Cette puissance religieuse, la grande Babylone prostituée, chapitre 17. Puissance politique et commerciale au chapitre 18. Et quand on lit ces textes, ces jours-ci, combien ils sont d'actualité. Le mercantilisme, les marchands de la terre qui se sont enrichis par elle. La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. Tous les trafics. Et tout ce trafic de l'or noir qui est au cœur de cette déstabilisation du moment. Combien le monde tremble ces jours-ci, est-ce que nous le réalisons, n'est-ce pas? Autour d'une situation qui colle tellement avec le chapitre 18 de l'Apocalypse. Le confort, le luxe, l'orgueil démesuré, elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe. Société de consommation, de gaspillage, richesses accumulées. Dépravation des mœurs, il est question du vin, de l'impudicité de Babylone dont les habitants de la terre se sont enivrés. Je ne voudrais pas que vous alliez vous coucher tout à l'heure avec une dépression. Nous aurons l'occasion, en milieu de semaine, d'évoquer la question du découragement. Mais je ne voudrais pas vous décourager pour devoir vous encourager dans les réunions suivantes, n'est-ce pas? Vous en savez autant que moi. La violence, elle est ivre du sang des saints et des témoins de Jésus-Christ. L'odieux, les odieux trafics d'êtres humains. Il est question de ces achats de corps et d'âmes d'hommes. Combien cela est à la page? Et nous savons que le jugement de Babylone est annoncé en des termes fracassants. Jésus vient rapidement. Bientôt, nous l'attendons. Et nous sommes dans cette phase si clairement annoncée par les Écritures d'une sorte de précipitation des événements. Nos politiciens, nos sociologues, nos économistes sont complètement dépassés. Mais nous, disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas dépassés. Dans la mesure où, comme nous le verrons demain, nous plongeons nos racines à fond dans la parole et la serrons dans notre cœur. Et je termine ce soir en disant simplement que dans ce monde inquiétant, qui est en train de se disloquer et qui attend avec une frénésie de plus en plus grande de voir son faux Messie se lever. Dans ce monde inquiétant, une équipe de croyants, l'Église, l'Église de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ annoncée dans le début du livre de Daniel. Si ce livre s'appelle le livre de Daniel, ce n'est pas l'histoire de Daniel. C'est l'histoire d'une équipe. Ils sont cités 21 fois ensemble, à 3 ou à 4, simplement dans les premiers chapitres. Ce n'est pas le livre de Daniel d'abord, c'est le livre d'une équipe qui annonce l'Église de Jésus-Christ. Parce que le christianisme n'a rien d'une religion solitaire. Nous ne pouvons pas nous permettre de vivre un christianisme en Robinson Crusoe. D'autant plus dans les temps que nous vivons. Et nous avons dans cette équipe, comme nous le verrons, le premier, peut-être, groupe biblique universitaire dans l'histoire des GBU mondiaux. Une équipe qui savait prier et qui connaissait les Écritures. Ils annoncent l'Église parce que ils sont des hommes de famille noble, de race royale. Ils sont des dignitaires ou des enfants de dignitaires de Jérusalem. Nous sommes de race royale. Nous sommes de famille noble. Ambassadeurs de notre Dieu. Nous sommes les sujets du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Et je l'espère fier de l'être. Dans un de mes voyages à Madagascar, comme je retournais pour la seconde fois dans ce pays pour une série de conférences, notamment dans la capitale, à Tananarive, j'avais été interviewé par un reporter d'un des grands journaux de Tananarive. Et quand j'ai ouvert le journal contenant l'interview, le lendemain ou le surlendemain, c'était très intéressant. Il y avait tout d'abord un titre très épais, deux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au président de la République. Et juste en dessous, Maurice Becker est à nouveau dans nos murs. J'étais fier. Il n'y avait pas deux ambassadeurs. Il y en avait trois. Il y en avait trois. Et c'était ma joie d'être l'ambassadeur de Dieu, n'est-ce pas? Pouvoir être ambassadeur de Dieu dans la Babylone de notre temps. Ça, c'est l'Église. Vous et moi, redressons la tête, mes amis. Mais nous sommes en même temps des exilés. Comme Daniel. Des déracinés. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Notre bourgeoisie, comme dit une traduction, est là-haut. Notre cité est là-haut. Comme Daniel, nous sommes des transplantés. Mais notre cœur, oh, je le souhaite, que Dieu le fasse durant cette fin de semaine, que notre cœur, si cela était nécessaire, revienne à l'endroit où il doit être, comme jamais auparavant. Voilà l'Église. Des exilés de race royale dans la Babylone moderne. Comme Daniel. Des déracinés. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Notre bourgeoisie, comme dit une traduction, est là-haut. Notre cité est là-haut. Comme Daniel, nous sommes des transplantés. Mais notre cœur, oh, je le souhaite, que Dieu le fasse durant cette fin de semaine, que notre cœur, si cela était nécessaire, revienne à l'endroit où il doit être. Comme jamais auparavant. Voilà l'Église. Des exilés de race royale dans la Babylone moderne qui ont un message à transmettre par leur vie. Alors ce que nous allons voir à partir de demain, c'est comment Daniel et ses compagnons ont-ils réagi. Vous le savez par la lecture, mais nous allons essayer de voir les dessous.
de comprendre, nous allons nous identifier à ces personnages, nous allons nous mettre dans leur peau, de manière à ce que Dieu puisse nous interpeller. Daniel, qu'as-tu à me dire pour ma vie dans le monde d'aujourd'hui? Et nous commencerons par examiner la raison profonde pour laquelle ils ont rendu un témoignage si remarquable, confrontés à des problèmes si difficiles, si douloureux, qui sont de plus en plus les nôtres, dans ce temps où le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est devenu tellement imminent. Alors ce soir, c'est d'abord un message d'encouragement que je voulais vous laisser. Ne pensons pas que nous sommes dans une situation trop difficile pour être un peuple de vainqueurs. D'autres nous ont précédés il y a bien longtemps. Dieu les a gardés. Dieu les a bénis. Dieu a fait d'eux une riche bénédiction dans des situations aussi difficiles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Alors mes bien-aimés, bon courage, que Dieu nous visite durant ces heures que nous passons ensemble, pour que nous repartions ensuite avec courage, travailler et servir là où Dieu nous a placés. Nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, comment ne pas te bénir d'avoir sélectionné cette histoire de Daniel pour la garder précieusement au travers des siècles afin qu'elle vienne jusqu'à nous. Merci parce que elle est ta parole pour nous aujourd'hui en 1990. Merci pour cette petite équipe de jeunes gens si fragiles face à cette machine tentaculaire épouvantable qu'était Babylone. Merci parce que tu les as tenus dans ta main, tu les as bénis et tu as fait d'eux une bénédiction pour leur entourage. Seigneur, tu veux que nous apprenions à marcher sur les traces de ceux qui nous ont été donnés en exemple dans ta parole. Merci de ce que nous pouvons compter sur toi, sur ton esprit, sur ta grâce, sur ton soutien pour cela. Nous t'adorons, nous te remercions de tout notre cœur. Nous te bénissons ce soir pour l'encouragement que cela représente dans nos propres combats quotidiens. C'est pour ta gloire et dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié.